Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 17 Aban 1399 du calendrier iranien, 7 novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. La nation iranienne poursuivra sa résistance, a déclaré le président Rouhani. Le président Rouhani appelle le futur président américain à apprendre de l'échec des sanctions. L'Iran et Cuba font front commun face au terrorisme économique des États-Unis. Et aux États-Unis, Joe Biden dit gagner l'élection avec une majorité claire. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé au retour de la prochaine administration américaine à ses obligations en vertu du droit international. Nous espérons que l'expérience des trois dernières années servira de leçon à la prochaine administration américaine pour se conformer aux lois et aux règles internationales et retourner à ses engagements, a déclaré M. Rouhani lors d'un discours télévisé. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que Téhéran prenait uniquement en considération les actes et non les paroles lorsqu'il s'agit de traités avec les États-Unis. Dans une interview avec la chaîne de télévision latino-américaine Telesur, Zarif a déclaré qu'il y avait des différences évidentes entre le président américain Donald Trump et son rival présidentiel, Joe Biden. Zarif a cependant noté que ce qui est important pour l'Iran, ce n'est pas le ton ou la rhétorique, mais les actes. Joe Biden a promis de revenir à l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales s'il est élu président. Trump a renoncé à l'accord en 2018 et a imposé des sanctions sévères à la République islamique d'Iran. Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que les États-Unis devront revenir à la table des négociations s'ils souhaitaient réintégrer l'accord. Le haut diplomate iranien a également noté que Washington devra changer son approche pour que la situation change. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran et Cuba s'étaient engagés à renforcer leur alliance pour faire face au terrorisme économique des États-Unis. L'Iran et Cuba ont fait front commun face à la pression des États-Unis, des pressions qu'on ne peut considérer que comme du terrorisme économique. La coopération entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier dans l'énergie, la science et la technologie, ne serait pas affectée par les sanctions américaines, a déclaré Mohammad Javad Zarif. Il a fait ses remarques lors d'une réunion avec son homologue cubain à La Havane. Zarif a entamé mardi une tournée en Amérique latine. Dans la première étape de sa tournée, il est arrivé à Caracas pour s'entretenir avec de hauts responsables du Venezuela. Après sa visite à La Havane, il se rendra en Bolivie pour s'entretenir avec le gouvernement nouvellement élu du pays. Le Hezbollah a fermement condamné les sanctions américaines contre le chef chrétien du courant patriotique libre du Liban comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du pays. Le mouvement de la résistance islamique du Liban a estimé que les sanctions américaines contre Gebran Bassil visaient à forcer une grande faction politique à se soumettre aux conditions et aux dictats de Washington. Le département américain du Trésor a mis Bassil sur la liste noire pour ses liens avec le Hezbollah et sa corruption présumée. Bassil a souligné que les sanctions américaines ne les forceront pas à tourner le dos au peuple libanais. Les sanctions américaines surviennent au moment où le Liban est en crise politique et où le premier ministre désigné, Saad al-Hariri, tente de former un nouveau gouvernement. C'est la première fois que des sanctions américaines visent un chef du parti chrétien libanais. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, s'est à nouveau adressé aux Américains alors que son avance grandissait dans plusieurs États dans la course à la Maison-Blanche. Joe Biden s'est abstenu de revendiquer formellement la victoire à l'élection présidentielle aux États-Unis, mais n'a laissé aucun doute quant à ses certitudes d'être sur le point de battre Donald Trump. Au terme de son allocution d'un peu plus de 7 minutes, Joe Biden a réitéré ses appels au calme, à la patience et à l'unité des Américains. Il a souligné que le but de la politique américaine devrait être de résoudre les problèmes et non d'attiser les flammes des conflits. Parallèlement, les partisans de Trump ont organisé des rassemblements dans les centres de dépouillement dans différentes villes, exigeant un recompte. Les manifestants ont réitéré l'allégation de Trump selon laquelle les démocrates ont truqué le vote. En Arizona, certains des partisans de Trump ont été vus portant des armes à feu. En Pennsylvanie, les manifestants ont appelé à l'annulation des bulletins de vote par correspondance, mais la Cour suprême de l'État a rejeté leur demande. Et enfin, l'aviation éthiopienne a bombardé samedi plusieurs objectifs dans la région septentrionale du Tigré, où des terroristes et séparatistes auraient pris d'assaut plusieurs bases militaires de l'armée fédérale. S'exprimant vendredi soir à la télévision nationale, le premier ministre Abiy Ahmed a recommandé aux civils de ne pas se rassembler en extérieur afin d'éviter tout dommage collatéral, ajoutant que de nouveaux raids aériens étaient à prévoir. Le premier ministre a annoncé le lancement d'opérations militaires dans la province dissidente en accusant le gouvernement local d'avoir attaqué des troupes fédérales. La dernière ligne rouge a été franchie, a commenté le chef du gouvernement éthiopien, après des mois de bras de fer entre son exécutif et les minorités séparatistes du Tigré. Samedi, le Parlement d'Addis Abeba a approuvé la nomination d'un gouvernement intérimaire pour remplacer les autorités régionales. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique qui porte sur les déclarations du président iranien Hassan Rouhani. La nation iranienne poursuivra sa résistance. C'est ce qu'a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Le président Rouhani a espéré que la nouvelle administration américaine tirera une leçon de la résistance de la nation iranienne contre le terrorisme économique de Washington. L'Iran est la cible du régime de sanctions le plus draconien depuis que l'administration Trump a abandonné l'accord nucléaire international avec la République islamique d'Iran en 2018. Dans ses commentaires de samedi, le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a exprimé sa gratitude au peuple iranien pour avoir fait preuve d'une résistance, d'une patience et d'une volonté significative et unique au cours des trois dernières années face au terrorisme économique des États-Unis. J'espère que la prochaine administration des États-Unis tirera une leçon de cette expérience de ces trois dernières années et respectera la loi et reviendra à toutes ses obligations afin que le peuple iranien verra et ressentira la récompense de sa patience et de sa résistance, a déclaré le président Rouhani. Sous le président Donald Trump, les relations entre Téhéran et Washington ont toujours connu une chute brutale. Avec le départ très probable de Trump de la Maison-Blanche, des questions se posent déjà sur la forme future des relations entre la République islamique d'Iran et les États-Unis. Le président iranien a déclaré : « La décision de notre pays a toujours été claire en toutes circonstances. La nation iranienne continuera sa résistance et sa patience jusqu'à ce que le côté opposé se plie à la loi et au règlement. Nous espérons que la situation sera telle que ceux qui sanctionnent l'Iran se rendront compte que leur chemin est faux et qu'ils n'atteindront jamais leurs objectifs », a-t-il ajouté. L'Iran fait l'objet d'une série de sanctions imposées par les États-Unis depuis 2018, lorsque Donald Trump a retiré Washington de l'accord nucléaire de 2015. Les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris les autres signataires de l'accord avec l'Iran, ont contesté le raisonnement de Washington selon lequel il était toujours un État participant à l'accord nucléaire de 2015.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 6 novembre 2020. Aux États-Unis, le président sortant Donald Trump réitère ses accusations de fraude contre les démocrates et continue d'affirmer qu'il est le vainqueur de l'élection présidentielle malgré le décalage de points qui sont de plus en plus favorables à son adversaire Joe Biden. Dans ce contexte, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a répété qu'il allait gagner l'élection présidentielle et que les démocrates essayaient de lui voler l'élection à tel point que plusieurs chaînes de télévision ont suspendu en effet la diffusion en direct de l'intervention de Trump. Le candidat démocrate Joe Biden, lui, a déclaré qu'il a la majorité, en effet, des votes populaires de tous les États-Unis et que cette majorité continuait de croître. Dans ce contexte, alors la division et la polarisation ont atteint leur paroxysme, des affrontements violents ont éclaté en effet entre manifestants et policiers dans plusieurs villes américaines. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher en effet sur ces violences post-électorales. La réaction et le positionnement des deux candidats justement en lice dans la course à la Maison-Blanche et bien entendu les conséquences de ces divisions. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Un Trump qui crie à la fraude électorale, un Biden qui l'accuse de vouloir casser la démocratie, des bérets verts des forces spéciales qui ont envahi les rues à bord des blindés, des hélicoptères qui tirent des grenades et bientôt des balles, voire des roquettes sur les manifestants qui brûlent la bannière étoilée au cri « Mort à l'Amérique ». Avouons que le spectacle est inouï. La démocratie américaine avait habitué le monde à renfort de sa machine médiatique à l'usage exclusif du mot « trouble post-électoral » pour des pays dits « paria ». Que l'Amérique elle-même en devienne la cible, il faut bien en rire. Trump veut saisir la justice contre Biden qui, lui, soutenu par l'armée, irait peut-être jusqu'à arrêter son prédécesseur et l'introduire devant justice. Qui est le responsable de ce foutoir? Dans la nuit de mercredi à jeudi, le FBI a fait une allégation étonnante, selon quoi une interférence des hackers liés au CGRI dans les votes aurait basculé certains États. Le spectacle ne s'arrêtant pas là, Washington a annoncé ensuite un vaste blocage des soi-disant sites Internet suspects du CGRI. Le département de la justice des États-Unis a bloqué ainsi les domaines Internet des 27 sites web iraniens au motif que ceux-ci tentaient d'influencer l'esprit du public américain et étranger en pleine élection présidentielle 2020. Pour avoir agi de la sorte alors même que la superpuissance court le risque d'une nouvelle guerre de sécession, il faut que le camp d'en face ait quelque chose de bien plus, qu'il ait su avoir attiré un public occidental dégoûté des médias mensonges officiels. C'est dire que l'effondrement approche, que les Américains viennent s'informer de ce qui se passe sur les sites iraniens, que ces sites liés au CGRI parlent en sorte que les Américains descendent dans la rue en découdre avec l'imposture qu'est le scrutin dit présidentiel US. Cela veut dire que l'Iran aboutit en touche. Mort à l'Amérique hégémonique, c'est désormais l'Amérique qui le crie. Et dire que Trump avait promis d'empirer l'Iran.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles, Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris, Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS. Monsieur Perrin, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Perrin, l'actualité internationale, bien sûr, largement dominée par l'élection présidentielle aux États-Unis et surtout, en effet, cette division et cette polarisation qui a atteint, en effet, son paroxysme depuis l'élection présidentielle aux États-Unis, à tel point que les tensions sociales restent toujours très vives. Le président américain, le président sortant, réitère ses accusations. Quel premier constat portez-vous justement sur, d'abord sur, en effet, l'intensification de cette polarisation d'une part et d'autre part sur les principales raisons, en effet, de la répétition de ces accusations de la part de Donald Trump, d'autant plus que, selon de nombreux observateurs, là, pour Trump, serait peut-être un moyen de dissimuler ces échecs en tant que président. Qu'en pensez-vous?
Division aux États-Unis, sans aucun doute. Polarisation accrue, sans aucun doute. Tension, sans aucun doute. Risque d'affrontement également, mais pas de nouvelle guerre de sécession. Il y en a une, il n'y en aura pas une deuxième en 2020. Cela dit, la situation est effectivement extrêmement sérieuse. La gravité de la situation ne doit pas être sous-estimée par rapport aux États-Unis, bien sûr, par rapport au peuple américain et par rapport au reste du monde, puisque nous parlons quand même d'une élection présidentielle dans le pays qui reste la première puissance mondiale devant la Chine, à travers différents compartiments, différents aspects de ce que l'on appelle traditionnellement une superpuissance. Alors, la polarisation, bien sûr, elle est inhérente à la vie politique. Il y a les républicains contre les démocrates, donc ce n'est pas nouveau, mais elle s'est accrue avec un personnage tel que Donald Trump, qui est particulièrement sujet à et cause d'une aggravation de la polarisation. Donald Trump, on n'est pas indifférent par rapport à lui. Il y a ses supporters, il y a ses fans, il y a ceux qui sont prêts à tout pour lui, et il y a ses adversaires qui le détestent, qui ne peuvent pas le voir, même en peinture, comme on dirait en français, etc. Donc, par rapport à d'autres candidats au président républicain du Parti républicain avant Donald Trump, y compris George W. Bush et d'autres, la figure, le personnage, l'histoire personnelle, les méthodes, la communication de Donald Trump, ses actes, sa brutalité, constituent évidemment des facteurs importants de polarisation de la vie politique américaine. Donald Trump est donc mené pour l'instant par son concurrent, Joe Biden, en termes de grands électeurs. Alors les chiffres varient un petit peu pour Joe Biden, entre 253 et 264 selon les estimations américaines, mais donc très proche du seuil de 270 grands électeurs pour remporter la victoire. Et évidemment, plus Joe Biden se rapproche, plus le camp républicain, et Donald Trump en particulier, s'énerve et s'excite à travers la communication. On a vu l'intervention cette nuit du président américain qui était tout à fait exceptionnelle et tout à fait inhabituelle pour un président en exercice. Et sur le plan judiciaire, puisque plusieurs procédures ont déjà été entamées dans divers États ou sont sur le point d'être entamées. Et on est toujours face à ce suspense propre à Hollywood, avec cinq États qui sont clés maintenant, l'Arizona, le Nevada, la Géorgie, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord. Et on attend donc la fin de ce dépouillement. Je ne sais plus qui disait qu'il n'y a que la finale de la Coupe du Monde de football qui présente plus de suspense qu'une élection présidentielle aux États-Unis. On peut peut-être dire que cette élection présidentielle-là, il y a encore plus de suspense que la Coupe du Monde de football, la finale, ce qui n'est pas peu dire. Donc des inquiétudes par rapport aux États-Unis, mais pour ma part, une confiance raisonnée et raisonnable dans la solidité des institutions américaines et dans la sagesse du peuple américain, même s'il y a évidemment de nombreux excités. Et je pense que voilà, c'est un moment difficile. Il y aura des suites judiciaires qui vont durer un certain nombre de jours, quelques semaines, mais je ne prévois évidemment pas une nouvelle guerre civile aux États-Unis, loin de là, heureusement pour ce pays et pour le monde.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Perrin. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue.
Monsieur Michel, Monsieur Perrin l'a rappelé justement, l'aggravation de la polarisation. Dans quelle mesure alors cette aggravation de la polarisation et de la division au sein de la société américaine, premièrement, aura un impact sur l'issue du scrutin et sur, en effet, l'intensification des tensions sociales aux États-Unis?
Je voudrais tout d'abord donner une précision. Je ne fais pas de choix entre Trump ou Biden, qui sont deux canailles, et je suis comme un entomologiste qui dissèque des insectes venimeux. Je n'ai pas de sympathie pour aucun des deux. Il faut reconnaître que la société américaine, et c'était déjà apparent en 2016, elle est extrêmement polarisée. Il y a deux Amériques, il y a même deux géopolitiques américaines, puisqu'on voit la côte Est et la côte Ouest s'opposer à l'Amérique, au centre de l'Amérique, qui est justement l'Amérique rurale, l'Amérique de ce qu'on appelle les rednecks, les petits blancs, qui sont la base électorale de Trump. Je ne suis par contre pas d'accord avec mon collègue. L'explication qui accuse Trump d'être responsable de cette polarisation, Trump, ça a été un révélateur. Mais il n'est pas la cause de cette division de l'Amérique et il n'est pas la cause de ce climat de guerre civile. Il faut quand même rappeler quelque chose. Quand il est élu en 2016, il a contre lui une austérité majeure des démocrates. Il y a à ce moment-là une coalition qui est composée des Clinton, d'Obama et du milliardaire George Soros. Et il lance contre Trump une révolution de couleur aux États-Unis qu'on appelle la Purple Revolution. Elle est débordée par un mouvement féministe qu'on appelle les Pussy Hats. C'est de là que viendra le fameux mouvement MeToo d'ailleurs. Et le but de ces gens, c'est que Trump soit destitué et ne termine pas son mandat. Le problème, c'est que Donald Trump, il y a en gros deux Amériques qui s'opposent à quelques millions ou quelques centaines de milliers de voix près. Elles s'opposent géographiquement, elles s'opposent socialement, leurs intérêts divergent, et dès lors, il ne faut rien attendre de bon. Ce qui s'est caractérisé, c'est que l'existence de cette Purple Revolution, auquel appartient le mouvement Black Lives Matter, qui est aussi financé par Soros, etc., la différence, c'est que cette base anti-Trump a radicalisé la base républicaine. Les gens de Trump se sont organisés. Les politologues, aujourd'hui, avec raison, ils parlent d'un Trumpisme, d'un mouvement d'ailleurs qui va continuer et durer. Ils s'appuient sur de larges secteurs de l'opinion publique, les chrétiens évangélistes, les petits blancs, etc. Il y a une série de grands lobbies aussi. Et donc, toutes les conditions sont en place pour que nous ne soyons plus devant les États-Unis d'Amérique, mais les Divided States of America. Est-ce qu'on peut déboucher sur une guerre civile? Moi, je ne fais pas de pronostic là-dessus, ni en bien ni en mal. Il faut constater que la base radicale des deux Amériques, elle est armée, elle est constituée en milices. Il y a les milices d'extrême droite dont on parle toujours dans nos médias. Nos médias ont un tropisme anti-Trump, ce qui fait qu'ils nous montrent que le côté laid de cette Amérique, qui est celle de Trump, on ne nous montre pas le laid côté de l'Amérique démocratique. Il y a aussi des milices armées, notamment du côté des communautés noires. Il y a les New Black Panthers, etc. Et donc, on risque d'arriver, évidemment, à une confrontation qui peut déborder rapidement. Il y avait, j'ai vu sur la troisième chaîne de télévision belge, il y a quelques semaines, un documentaire intéressant où il expliquait que, justement, la base sociale de Trump, les petits blancs, ils étaient en train de réaliser une sécession mentale qui ressemble fort, d'ailleurs, à la séparation des deux Amériques en 1858-60. Maintenant, la dernière chose qu'il faut constater, ce qu'on voit, c'est la disqualification complète du système électoral américain. On nous a dit que c'était la démocratie exemplaire, le modèle du monde, et on assiste à un spectacle lamentable qui est pire que celui des pires républiques bananières du tiers-monde. Le système ne marche pas, il est mal organisé, il est archaïque, notamment le vote des grands électeurs qui désigne à ce moment-là le président, il rappelle un peu le vote des assemblées sénatoriales dans les monarchies d'ancien régime du 19e siècle. Ce sont des choses qui ne marchent pas. Et dernière chose, évidemment, c'est que le système électoral américain, il est propice à toutes les fraudes. On nous dit qu'il n'y a pas de fraude, Trump raconte n'importe quoi. Il y a sur Internet des dizaines de vidéos qui montrent des fraudes électorales à ces élections. On sait qu'en France, en 1973, si j'ai bonne mémoire, on a interdit le vote par correspondance dans toute la République française, précisément parce qu'il était propice aux fraudes électorales. Il y avait des spécialistes, d'ailleurs, dans le parti gaulliste, qui étaient des spécialistes du bourrage d'urnes et de la manipulation électorale. Il y a des bizarreries, c'est que on voit subitement, il n'y a quasiment pas de vote pour Trump dans ce vote par correspondance, et les médias qui sont anti-Trump, ils nous expliqueraient que ça serait le choix des démocrates, que les républicains auraient choisi de ne pas utiliser le vote par correspondance on a quand même de gros doutes.
Merci, Monsieur Michel. Monsieur Perrin, et vous, comment évaluez-vous, quel est votre commentaire sur justement ce système électoral aux États-Unis?
Le mot archaïque a été employé, et c'est un mot que je peux volontiers reprendre. C'est vrai que vu de France, vu d'Europe et vu de nombreux autres pays, un système électoral indirect à 2 degrés peut nous sembler étrange, avec des conséquences que l'on connaît et que l'on a vues il y a 4 ans, en novembre 2016, lors de l'élection de Donald Trump à la présidence. Un candidat peut, dans certaines situations, remporter donc l'élection avec moins de voix que son concurrent. En novembre 2016, Donald Trump a été élu avec un peu moins de 3 millions de voix de moins que la candidate démocrate Hillary Clinton. D'un point de vue démocratique, c'est quelque chose que personnellement je trouve choquant, parce que cela veut dire que le résultat d'une élection peut ne pas refléter le vote populaire, ce qui est un élément clé d'un régime démocratique. Alors, ceci étant dit, ce système des grands électeurs est très ancré dans l'histoire américaine, dans les mentalités américaines, en tout cas au moins une partie, bien sûr, et chacun est conscient qu'il sera très difficile de le changer de façon effective, même si depuis des années, de nombreux analystes, journalistes, responsables politiques ont pointé les problèmes et les difficultés liées de ce système. Mais quant à la capacité de l'opinion américaine, de la classe politique, à changer ce système dans les années qui viennent, je ne serais pas particulier. En tout cas, clairement, effectivement, nous sommes face à cette situation et nous sommes face à cette polarisation que nous évoquions. Je ne disais pas que Donald Trump était responsable à 100% de cette polarisation, je disais qu'il aggrave cette polarisation. S'il l'aggrave, ça veut dire qu'elle existait avant, bien sûr. Il a une part de responsabilité, mais il n'a pas toute la responsabilité. Il y a évidemment des évolutions politiques, économiques, sociales. Donald Trump n'est pas responsable de tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est un pays de près de 9 millions de kilomètres carrés. Si mes souvenirs de géographie sont bons, une population de l'ordre de 330-340 millions d'habitants. C'est un pays, une fédération de 50 États. Donc même lorsque l'on est, comme le disent souvent les médias, l'homme le plus puissant du monde, c'est-à-dire le président américain, parce qu'on est à la tête de la première puissance mondiale, on ne fait pas la pluie et le bon temps aux États-Unis, y compris sur le terrain politique. Donc il faut relativiser par rapport à ce que disent de nombreux médias concernant Donald Trump, qui est un bon client pour les médias, comme ils disent en français, hein, une bonne tête de Turc, c'est aussi une expression française, désolé pour les Turcs, mais on comprend cette expression. Donc il faut relativiser, mais c'est un candidat qui polarise, qui aime polariser, qui aime jouer sur cet aspect-là. Incontestablement, cela fait partie de sa personnalité politique, cela fait partie de son jeu politique, cela fait partie de sa campagne, et on ne peut pas non plus analyser la polarisation actuelle sans prendre en compte une responsabilité partielle et significative pour le président en exercice, Donald Trump.
Merci, merci encore. Une dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, alors étant donné les récentes évolutions, des évolutions qui se sont accélérées, bien sûr, dans le contexte de l'élection présidentielle américaine, de l'aggravation de cette polarisation, de l'intensification des tensions sociales, alors la question qui se pose justement, c'est est-ce que cette prétendue démocratie exemplaire avec ce spectacle justement lamentable dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que cette démocratie en est fait pourrait se targuer de donner des leçons au reste du monde?
Elle n'a pas de leçons à donner au monde. Quand on voit que les missions américaines, notamment de monitoring, et en particulier l'une d'entre elles qu'on appelle une des vitrines légales de la CIA, qui est la NDI, qui est organisée sous les années Reagan précisément pour prendre en main les élections du tiers-monde, eh bien ces gens n'ont pas évidemment de leçons à donner. Il y a 2 exemples pour le moment d'élections contestées et truquées, puisqu'on s'oriente de plus en plus vers ça. Il y a la Côte d'Ivoire et il y a les États-Unis. Je ne crois pas que la comparaison entre les deux soit très reluisante. Ce qu'il faut constater, c'est qu'on assiste aussi, pas seulement à la faillite du système électoral américain, mais à la faillite du système d'information américain et occidental. Il y a à part quelques grands médias pro-Trump comme Fox News, il y a visiblement un trumpisme pro-démocrate, anti-Trump en tout cas, dans les médias américains, et qui s'est décalqué sur nos médias européens. Allez sur les chaînes occidentales, à part CNews, qui est une chaîne très à droite, où s'exprime notamment Zemmour, on constate partout qu'on casse du Trump autant qu'on le peut et que les explications des journalistes pro-démocrates deviennent vérité d'évangile en Occident. En réalité, on s'aperçoit qu'on a une information manipulée. Les sondages se sont totalement trompés, aussi bien en 2016 que cette fois-ci. On nous parlait d'une vague démocrate bleue, il n'y en a pas. Le sondage, il faut savoir que ce n'est pas une façon d'appréhender l'opinion, c'est une façon de manipuler l'opinion publique suivant les questions que vous posez. On nous a annoncé aussi une série de choses sociologiques. Soi-disant, il y avait une Amérique noire et une Amérique latino unies par un antiracisme qui n'existe pas aux États-Unis, qui était contre Trump. On constate qu'au Texas ou en Floride, une majorité d'électeurs latinos, les latinos ont donné leur voix à Donald Trump, et il faut constater que même dans la communauté noire, les chiffres qu'on a, on a entre 15 et 20% de la bourgeoisie noire qui a voté Trump parce qu'il a amélioré les conditions d'emploi. Donc tout ce qu'on nous a raconté, c'est une vaste blague, et on recommence encore à propos de l'explication de ce chaos électoral. On recommence à, comme on dit à Paris, à nous jouer du pipeau. On nous raconte de belles histoires. C'est une faillite générale qui ressemble assez aux faillites occidentales. Il faut constater que de plus en plus de pays, que ce soit la Chine, la Russie, qui a défini sa démocratie russe souveraine, beaucoup de gens s'éloignent de ce modèle occidental.
Merci.
Pourquoi les États-Unis, d'ailleurs, comme la plupart des démocraties occidentales, ce n'est pas la démocratie, ce sont des oligarchies qui ont pris les formes de la démocratie parlementaire. C'est ce que les marxistes appelaient
le
parlementarisme petit bourgeois. Et c'est typique, d'ailleurs, aux États-Unis, où existe ce système de double électeurs, de grands électeurs, etc. C'est typique d'un système oligarchique qui a peur de la masse populaire.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS depuis Paris. Merci infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà.
Merci
à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushich. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Très chers auditeurs, bienvenue dans cette émission Focus. La prochaine administration américaine cédera à l'Iran. Quel que soit le vainqueur de la bataille présidentielle américaine, la prochaine administration américaine n'aura d'autre choix que de se rendre à la nation iranienne, a déclaré jeudi 5 novembre le président iranien Hassan Rouhani. Dans des commentaires à l'ouverture d'un projet d'approvisionnement en eau jeudi matin, M. Rouhani a déclaré que peu importe pour l'Iran quel serait le résultat final de l'élection présidentielle américaine, peu importe qui est élu président, car la prochaine administration américaine se rendra à la nation iranienne. A-t-il fait savoir? Le gouvernement américain n'a d'autre choix que de céder à la loi, à la pression de l'opinion publique et à la résistance de la grande nation iranienne, a-t-il ajouté. Le président iranien a déclaré que le peuple iranien était le vainqueur ultime face aux États-Unis, car il avait résisté aux sanctions et aux problèmes liés au coronavirus. Notre nation ne fléchirait pas sous les pressions. Nous pouvons vaincre les ennemis et les forcer à recommencer à respecter la loi et les règlements, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Nouvelle arme iranienne, une mitraillette balistique. La Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a dévoilé le mercredi 4 novembre un nouveau lanceur de missiles balistiques à longue portée capable de lancer plusieurs missiles consécutifs. Il s'agit d'une sorte de mitraillette balistique avec 5 missiles à combustible solide MAD dont le lanceur est composé d'un petit wagon mobile agile et propre à réduire sensiblement le temps de lancement. Les missiles haute précision MAD sont d'une portée de 1700 km. Dans le passé, les tirs des missiles se faisaient par intermittence, mais la mitrailleuse à missiles rend le feu continu autant à l'adversaire l'occasion de s'en remettre. Chaque wagon a la capacité de transporter 5 missiles, ce qui revient à dire qu'à chaque frappe, il y aura au menu 5 missiles au lieu d'un qui s'abattront sur l'ennemi. Puis, tous les 5 missiles seront tirés d'un même et unique silo à missiles, évitant ainsi la dispersion. Assad. Les milliards de dollars bloqués dans les banques libanaises derrière la crise économique en Syrie. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré que les milliards de dollars déposés par ses compatriotes dans le secteur financier libanais, qui avaient été bloqués après la crise financière majeure au Liban, sont à l'origine de l'aggravation de la crise économique en Syrie. Les banques libanaises, craignant la fuite des capitaux, ont depuis l'année dernière imposé des contrôles stricts sur les retraits et les transferts à l'étranger, provoquant l'indignation des déposants locaux et étrangers incapables d'accéder à leur épargne. M. Assad a déclaré que de 20 à 42 milliards de dollars de dépôts syriens auraient pu être perdus dans le secteur bancaire autrefois dynamique qui détenait plus de 170 milliards de dollars de dépôts en devises. Ce chiffre, pour une économie comme la Syrie, est terrifiant, a-t-il déclaré. C'est l'argent qu'ils ont mis dans les banques libanaises et nous en avons payé le prix. C'est l'origine du problème dont personne ne parle, a dit M. Assad lors d'une visite à une foire à Tikya al-Suleymaniya à Damas. Les hommes d'affaires syriens affirment que les contrôles stricts imposés par les banques libanaises sur le retrait d'argent ont bloqué des centaines de millions de dollars autrefois utilisés pour importer en Syrie des produits de base et du pétrole. Le Pentagone envoie des militaires en Libye. Un bulletin militaire a révélé des allers et retours entre la ville de Benghazi en Libye et la ville d'Erbil dans le Kurdistan irakien en passant par la capitale bulgare Sofia. Selon le site web de la télévision libanaise d'information Al-Mayadin, ce bulletin militaire a été publié le 28 octobre par Arms Watch qui a indiqué avoir surveillé les mouvements aériens intenses entre la Libye et Erbil, dans le nord de l'Irak. Un certain nombre de militaires américains contractuels étaient à leur port. Selon le bulletin, plusieurs vols affrétés depuis le Pentagone ont transporté des dernières semaines environ 150 entrepreneurs militaires depuis le secteur privé de la ville de Benghazi en direction de la ville d'Erbil en Irak, en passant par la capitale bulgare, Sofia. Une enquête du journal Times a indiqué que bien que l'armée américaine n'opère pas officiellement à Benghazi, le nombre de vols entre Benghazi et Washington a augmenté depuis juin dernier. Les États-Unis se retirent officiellement de l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis se sont officiellement retirés de l'accord de Paris mercredi, devenant ainsi le seul pays parmi près de 200 signataires à avoir abandonné ce programme mondial de lutte contre le changement climatique. Le président américain Donald Trump avait annoncé en juin 2017 que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris. Selon les termes de l'accord, ses signataires ne peuvent demander formellement à s'en retirer que 3 ans après son entrée en vigueur, soit le 4 novembre 2019, et que ce retrait prendra effet 1 an après son annonce, ce qui signifie que les États-Unis se retireront formellement du pacte le 4 novembre de cette année. Côte d'Ivoire, ouverture de la période de réclamation sur les résultats de l'élection présidentielle. La période des réclamations sur les résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, donnant le président sortant Alassane Ouattara élu avec 94,27% des voix, est ouverte depuis mercredi pour un délai de 5 jours, annonce le Conseil constitutionnel. Dans un communiqué parvenu à Chinois mercredi, le Conseil constitutionnel informe les candidats à l'élection présidentielle que la Commission électorale indépendante, CEI, ayant procédé à la proclamation des résultats provisoires, leurs réclamations seront reçues du mercredi 4 novembre 2020 au dimanche 8 novembre 2020. Les résultats provisoires proclamés par la CEI donnent le président sortant Alassane Ouattara vainqueur du scrutin de samedi dès le premier tour avec 94,27% des voix et un taux de participation de 53,9%. Les opérations de vote ont été émaillées d'incidents meurtriers dans plusieurs localités du pays, excepté dans le nord, et sur 22 381 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire ivoirien et à l'étranger au total 17 601, selon la CEI. Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufoyettistes pour la démocratie et la paix, était en lice avec Henri Conan Bédier du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pascal Affi N'Gessan du Front populaire ivoirien et l'indépendant Bertin Kouadio-Konan. Les deux candidats de l'opposition n'ont pas voté et ont appelé à la désobéissance civile et au boycott du processus électoral. Zone euro, profonde récession confirmée, pas de retour rapide à la normale. Une économie en profonde récession, un rebond moins fort que prévu et des dettes qui s'envolent. L'épidémie de coronavirus s'avère désastreuse pour la zone euro, selon un bilan établi jeudi 5 novembre par la Commission européenne qui n'entrevoit pas de retour rapide à la normale. Dans ses dernières prévisions économiques, l'exécutif européen anticipe une chute de 7,8% du produit intérieur brut PIB de la zone en 2020. Cette récession est un peu moins grave que les moins 8,7% anticipés cet été, mais le rebond espéré l'an prochain, plus 4,2%, devrait aussi être beaucoup moins fort que le chiffre de 6,1% initialement prévu. En cause, la seconde vague de la pandémie de coronavirus qui anéantit nos espoirs d'un rebond rapide, a expliqué le vice-président de la Commission. La Commission européenne anticipe pour l'instant que l'économie reviendra à peine au niveau pré-pandémique en 2022. Mais elle souligne que le degré élevé d'incertitude qui pèse encore sur l'économie fait courir des risques de détérioration de ses perspectives et elle penche plutôt pour un retour à la normale en 2023.